je suis Gilles Robin, je suis directeur adjoint de l'École des Ponts. Et donc, les deux ministères, le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Agriculture, m'ont chargé de vous présenter un peu le concours, en tout cas le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, et le concours d'accès, en tout cas pour des élèves de l'école, hein, notamment. Alors peut-être d'abord, dans quelle année êtes-vous? Est-ce qu'il y a des troisième années? Très bien. Des deuxième années? Très bien. Est-ce qu'il y a des premières années éventuellement? Non. Donc troisième et deuxième année essentiellement. Très très bien. Alors, on va démarrer. À la fois peut-être une présentation qui va comprendre à la fois un peu c'est quoi le corps des ponts, des eaux et des forêts. Ensuite, effectivement, comment y accéder, évidemment, notamment évidemment cette question du concours sur lequel on reviendra. Et puis peut-être pour terminer des éléments d'information sur le contexte notamment de réformes en cours, hein, de la haute fonction publique. Alors d'abord, peut-être rappeler que le corps des ponts, des eaux et des forêts résulte d'une fusion entre le corps des ponts et chaussées, qui était le corps principal, je dirais, d'ingénieurs supérieurs du ministère dit de l'équipement, devenu ministère de la Transition écologique aujourd'hui, et puis le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, qui était un des corps supérieurs, on va dire, d'ingénieurs du ministère de l'Agriculture. L'autre corps supérieur de ce ministère, c'est le corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire, hein, qui s'occupe des questions, évidemment, d'alimentation en particulier. Alors, le corps des ponts, de cette manière, ce corps aujourd'hui pont, eau et forêt, on va dire, va s'intéresser à l'ensemble des activités, vous les voyez un peu sur ces photos, sur ces petites images, au fond, à des questions qui tournent à des questions, on va dire, essentielles de tout un chacun, se déplacer, se loger, se nourrir, en quelque sorte. Hein. Je la fais courte. Et donc, derrière, il y a un petit peu tous les sujets qui gravitent autour, qui sont des sujets à la fois scientifiques et techniques, qui sont des sujets économiques, qui sont des sujets de réglementation, qui sont aussi des sujets, évidemment, éminemment, on va dire, politiques, hein, de politique soit locale ou de politique plus nationale, voire même, évidemment, internationale. Et donc, vous les voyez, on traite évidemment des questions d'infrastructure, des questions de transport, des questions d'énergie, de demande, notamment de demande énergétique, les questions évidemment agricoles, agroalimentaires, des questions de préservation des milieux naturels. J'y reviendrai, vous les avez là. Et on a essayé de mettre aussi le fait que le corps des ponts, des eaux et des forêts, mais c'est vrai aussi pour d'autres corps, hein, de hauts fonctionnaires, c'est à la fois à la confluence entre agir pour l'intérêt général, bien évidemment, le bien commun, construire les politiques publiques en lien avec la société, avec nos concitoyens, et puis, bien évidemment, c'est un petit peu l'objectif de ce corps, c'est un peu son objet social, on pourrait presque dire, réaliser cette transition écologique alimentaire et énergétique. Alors, pour être un peu plus prosaïque, on va dire, le corps des IPEF, c'est un corps supérieur de l'État, qui a un caractère technique, et qui est en même temps interministériel. Autrement dit, même s'il relève de deux champs ministériels bien précis, bien identifiés, transition écologique d'un côté, agriculture de l'autre, de nombreux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts sont employés, sont en fonction, en poste, dans d'autres ministères, au ministère de la Culture, au ministère de la Justice, au ministère de l'Économie et des Finances, Industrie, au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, donc dans différentes sphères ministérielles. Donc je l'ai dit, ça relève de deux pôles ministériels bien identifiés, et donc un peu l'objet social du corps est un peu précisé ici, donc on va participer, les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts participent à la conception, à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques dans ce nombre de champs sur lesquels je reviendrai, dans des domaines donc croisant enjeux du développement durable, impact au quotidien et de long terme, et interdépendance évidemment entre acteurs. Peut-être rappeler que le corps, le système des corps dans la fonction publique de l'État, on va dire, c'est l'unité de base et de gestion de la carrière de fonctionnaire. Et donc, effectivement, l'ensemble des fonctionnaires de l'État se retrouvent être appartenant à un corps donné. À chaque corps, il y a un statut particulier. Et ce statut particulier va traiter d'un ensemble de sujets. On va y trouver des questions de domaine d'action, je vais y revenir, son périmètre d'activité, en quelque sorte, les questions relatives à son recrutement externe, un recrutement dit interne, pour des gens qui sont déjà fonctionnaires, des questions d'accueil en détachement, de gens venant d'autres corps. Ensuite, les questions qui sont liées au grade et à l'avancement dans le corps. Et puis, évidemment, toutes les questions qui sont relatives à la rémunération, on appelle ici les questions de traitement. Et pour le corps des IPEV, ben, donc le statut particulier a été défini par un décret de 2009. Alors, ces domaines d'action, il y en a principalement 9. On va donc les reprendre. Le climat, la demande énergétique, l'aménagement et le développement des territoires, les questions de logement et de ville, les transports, les questions de mise en valeur agricole et forestière, la question de gestion et préservation des espaces et des ressources naturelles, les problématiques d'alimentation et d'agro-industrie, et enfin, une thématique, on va dire, transversale, qui est relative à tout ce qui sont la recherche, recherche-développement, et tout ce qui est enseignement-formation dans ces 8 domaines. Donc ça, d'une certaine manière, constitue, on va dire, le champ de compétences dans lequel, par construction, les agents des ponts, des eaux et des forêts sont amenés à agir. Avec un périmètre d'activité qui est d'une certaine manière celui des 2 pôles ministériels que j'ai cités. Transition écologique d'un côté, auquel il faut rajouter actuellement le ministère de la cohésion des territoires, qui traite essentiellement des questions de logement, et puis le ministère de la mer, pour toutes les problématiques maritimes, et puis le pôle, on va dire, agriculture-alimentation, qui aujourd'hui n'est constitué que d'un seul ministère, dans l'architecture gouvernementale actuelle. Et puis, effectivement, un périmètre d'activité qui est étendu, comme je l'ai dit, à d'autres ministères en lien avec ces domaines. Quand je citais par exemple le ministère de la Justice, ce n'est pas pour être magistrat. C'est parce que le ministère de la Justice, il a besoin de construire des bâtiments, des tribunaux, des prisons. Donc effectivement, ils ont un opérateur qui est fait pour ça, qui s'appelle l'Agence de programmation des affaires de l'immobilier de la justice, l'APIJ, et qui effectivement est principalement... à la fois dirigé par un IPEF et dans lequel effectivement on retrouve aussi de jeunes IPEF. Donc c'est vrai aussi pour le ministère de la Culture, qui a besoin effectivement d'entretenir des bâtiments publics qui sont en plus des monuments historiques. Alors où sont aujourd'hui à peu près 3200 IPEF? Où sont-ils? Quels sont leurs secteurs d'emploi? Vous les avez sur ce camembert. Vous les retrouvez dans l'administration centrale, hein. On rappelle que dans les ministères, c'est un peu comme dans les entreprises, il y a à la fois le siège social, et puis il y a des établissements qui sont disséminés sur le territoire, donc il y a ce qu'on appelle une administration centrale, qui constitue un peu le siège social de chaque ministère, et il y a ensuite des services régionaux ou interrégionaux ou départementaux qui constituent finalement l'ossature sur le territoire de ces ministères. Vous les voyez ici. On retrouve également des IPEF dans les domaines de la recherche, les centres techniques. On les retrouve également dans l'enseignement supérieur, dans l'enseignement technique, notamment plutôt l'enseignement technique agricole, les lycées agricoles par exemple. Il y a ce qu'on appelle le secteur parapublic, qui va désigner ici toute une collection d'établissements publics qui sont des émanations de l'État et qui ont une personnalité juridique et morale et qui agissent souvent dans une mission de service public. Ça peut être le cas évidemment ici... De l'école des ponts, hein, qui est un établissement public, qui relèverait plutôt évidemment ici du secteur juste à côté d'enseignement supérieur. Et dans ce secteur parapublic, on va pouvoir trouver par exemple l'Office national des forêts, l'ONF, Voies navigables de France, la SNCF, etc. On retrouve aussi les collectivités territoriales, évidemment des entreprises privées, dans un contexte qui n'est plus évidemment de contexte de fonctionnaire en position dite d'activité, mais en disponibilité. Les organismes internationaux, il en existe évidemment plusieurs que vous connaissez, il y a évidemment l'ONU, mais dans les domaines qui sont relatifs plutôt dans les domaines du corps, on va retrouver des organisations thématiques, notamment dans le domaine de l'aviation civile, dans le domaine de la météorologie, dans le domaine de l'alimentation également. Et puis il y a une case dans laquelle on trouve évidemment les élèves, ceux qui font aussi des thèses, et puis un peu divers. Voilà un peu la répartition actuelle. Alors peut-être deux exemples de parcours, en tout cas d'élèves de l'école, qui sont passés par les bancs de cette école, et vous donner par exemple tout d'abord le parcours d'Alice Vieille-Fos, qui est ENPC 2010, qui en sortie d'école a été chargée de mission à la Direction générale de l'énergie et du climat, au ministère de la Transition écologique, chargée de mission efficacité énergétique et chaleur renouvelable. Ensuite, elle a fait un petit tour à EDF, comme analyste senior. Puis elle est revenue au ministère, mais à la Direction générale des infrastructures des transports et de la mer, la DGITM, comme chef d'un bureau, le bureau économique et financier. Et aujourd'hui, elle actuellement est directrice de cabinet du directeur général de l'énergie et du climat. Autre parcours, celui de Pierre Terrier, ENPC 2014. Lui, il avait démarré par une thèse. Je vous laisse lire son sujet. Et ensuite, il n'a pas souhaité évidemment poursuivre en recherche, ce qui est tout à fait évidemment possible. Et il est allé au Commissariat général au développement durable, au ministère de la Transition écologique, comme chef du bureau d'innovation et de la compétitivité des entreprises. Et aujourd'hui, il est à la DGITM, donc Direction générale des infrastructures de transport et de la mer, comme chef du bureau des opérateurs de transport ferroviaire. Donc voilà deux parcours, pour évidemment en donner d'autres, hein, mais une petite sélection. Alors comment évidemment ça s'organise, en tout cas pour vous donner un peu une idée du processus d'affectation sur un premier poste en sortie de formation. Ce processus, il est évidemment itératif pendant l'année de formation, une fois que vous avez réussi le concours. Tout d'abord, des entretiens individuels avec les responsables de la direction des ressources humaines des ministères, donc des entretiens individuels qui se font en général dans le courant de l'automne. Ces entretiens leur permettent en tout cas de mieux vous connaître, de mieux connaître vos appétences, en tout cas, vos contraintes éventuelles, contraintes géographiques, hein, potentielles. Et puis, ça leur permet effectivement, dans ce contexte-là, une fois d'avoir une photographie un petit peu complète de la promotion, de pouvoir évidemment prospecter et puis en même temps faire des remontées des postes par les services. Donc ça, c'est des choses qui vont s'effectuer en général au tournant de l'année, hein, décembre, janvier, février. Et puis ensuite, effectivement, va s'opérer une répartition sur une liste de postes qui vous est proposée. Et cette répartition va permettre, s'organise autour effectivement d'un speed dating, d'entretien avec les futurs employeurs, hein, ceux qui proposent ces postes, un classement que vous effectuez, une sorte de préférence, une concertation éventuellement entre vous, s'il y a des postes sur lesquels il y a plusieurs élèves qui sont en compétition, on va dire. Et puis un arbitrage qui est peut être fait par les ministères. Les ministères peuvent imposer en général ce qu'on appelle des planchers. Cette liste de postes comprend à la fois des postes au ministère de l'Agriculture, des postes au ministère de la Transition écologique, des postes dans d'autres ministères, mais avec en tout cas des minima qui sont recherchés par les deux ministères, on va dire, employeurs principaux. En général, lorsque vous êtes plusieurs sur un poste, c'est souvent effectivement celui qui a proposé le poste qui est en position de choix et de vous choisir et de vous désigner. Je préfère celui-là qu'un autre. Donc voilà, donc un processus qui est itératif, qui se fait sur la durée de la formation, en parallèle. Alors, je ne sais pas si on voit très très bien, mais en tout cas, voilà les quelques postes sortis entre 2016 et 2021. De ceux qui sont passés par le concours, qui venaient de l'école des ponts. Donc certains effectivement ont fait le choix effectivement de faire une thèse, hein, qui est un type de sortie d'école un peu particulier, mais qui n'en est pas moins un premier poste. C'est à la fois une formation et un poste. C'est comme ça que c'est perçu. Donc Charlotte Leger est partie, elle est partie au port de la Guadeloupe, vous voyez. Aurore Bivas est partie au Trésor. Guillaume Degavre est parti à la Caisse des dépôts. Quelqu'un qui est parti à la Direction générale des entreprises, au ministère de l'Industrie. Quelqu'un qui est parti au Grand Port maritime du Havre. Un autre qui est parti à l'État public foncier de Nouvelle-Aquitaine. Donc, vous voyez, ce n'est pas que des postes dans les ministères en tant que tels, c'est également des postes dans des opérateurs de ces ministères, en particulier du ministère de la Transition écologique. Pierre Bastard est parti à la DGAC. DGAC, c'est la Direction générale de l'aviation civile. Louise De Vries, elle est partie à la DRIAT Île-de-France. C'est le service, on va dire, régional du ministère de la Transition écologique pour la région Île-de-France. Quelqu'un est parti également à l'État public de reconstruction, enfin de rénovation de Notre-Dame de Paris. Et un autre, François-Emmanuel Lacassagne, là, cette année, est parti également au Trésor, hein, comme adjoint à un chef de bureau sur les questions de transport et d'énergie. Donc vous voyez effectivement là aussi, tropisme naturel effectivement sur ces sujets, les ministères, notamment financiers, direction du Trésor, ça peut être aussi la direction du budget, recrutent des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, dans des domaines qui effectivement sont, sont dans le domaine d'action de prédilection du corps. Alors, là aussi, ce graphique vous donne un peu une répartition de ces premiers postes, peut-être pour décoder rapidement les sigles. Hein. MTE-MCT, c'est ministère de la Transition écologique, ministère de la Cohésion des territoires. MAA, ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Après, vous avez les autres ministères et ce que j'appelle les AAI, les autorités administratives indépendantes. CT veut dire collectivité territoriale. Et puis dans chacun de ces ministères, il y a une répartition que j'ai opérée entre différents types de services, les DAC, les directions d'administration centrale, donc le siège social en quelque sorte de ces ministères, SD, services déconcentrés, les établissements sur le terrain, RST, ce qu'on appelle le réseau scientifique et technique, plutôt les opérateurs qui ont un caractère technique et de recherche affirmé, et puis évidemment une case un peu diverse, dite autre. Et donc vous voyez, j'ai mis évidemment en rouge ici, pour les six ingénieurs qui ont été recrutés sur le concours qui vous concerne. Vous voyez comment ils ont été répartis pour cette affectation 2021. Donc ça me permet également de vous... vous pouvez voir évidemment les différentes voies principales d'accès. Une voie sur l'école polytechnique, la première voie, une deuxième voie sur les écoles normales supérieures, les sections scientifiques des écoles normales supérieures, une troisième voie pour AgroParisTech, une quatrième voie pour les autres écoles, les autres grandes écoles scientifiques. C'est dans ce cadre-là que vous pouvez vous concourir. Et puis une ligne qui est marquée concours interne pour les ingénieurs des travaux d'un corps de fonctionnaires, les travaux publics de l'État ou ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, qui, au bout de entre 5 et 10 ans de carrière, peuvent candidater, peuvent passer un concours également spécifique pour changer de corps, en quelque sorte, d'une certaine manière, et passer dans un corps supérieur. Alors, le niveau satisfaction, il y a eu plusieurs enquêtes qui ont été menées entre 2016 et 2018 pour ceux qui avaient la prise de poste. Et donc, voilà, on vous donne tout ceci, sont issus de cette enquête. Une satisfaction est très satisfaite, entre 57 et 60% de très satisfaits sur leur premier poste, les gens qui sont satisfaits de leur poste entre 35 et 37%, peu satisfaits, vous voyez, 2%, des mécontents, malheureusement, il en existe, peut en exister, 1%. Donc, globalement, en tout cas, sur les premiers postes d'affectation, un assez bon niveau de satisfaction. À noter. Avant d'en venir au concours et à la façon de rentrer dans ce corps, peut-être rappeler la formation. Cette formation, essentiellement, elle dure un an, du 1er septembre au 31 août de l'année suivante. En pratique, 1er septembre jusque vers la mi-fin juillet, disons. C'est principalement le master spécialisé politique et action publique pour le développement durable, qui serait la formation de référence pour le corps. Mais d'autres formations peuvent être possibles. Évidemment, sur justification, on a cité ici le Collège des ingénieurs, qui on a une sorte de, on va dire, de quota de 2 à 4 élèves par an maximum, ou une autre formation sur un projet, là aussi, vraiment très spécifique, très argumenté, qui peut être éventuellement lié à un travail de thèse, hein, qui nécessiterait éventuellement, au-delà de votre formation d'ingénieur, d'acquérir des compétences, des prérequis complémentaires. Donc ça peut se regarder, ça n'est pas fermé, mais c'est vrai que la grande majorité, bon, quasiment exclusive, des élèves qui sont recrutés sur les concours, retiennent effectivement le MS PubDD comme formation. Ce choix, évidemment, est à opérer une fois que vous avez les résultats du concours. Une des premières actions sera évidemment de se déterminer sur la formation à suivre effectivement à la rentrée. Alors, ce master spécialisé PAPDD, qui est donc opéré par l'École des Ponts en collaboration avec AgroParisTech, ben voilà, vous l'avez ici un peu, vous apprend à concevoir, mettre en œuvre, évaluer des politiques publiques, hein, visant une plus grande durabilité de l'action publique, inventer l'action publique de demain, répondre aux exigences d'information et de communication de toutes les parties prenantes, accompagner et encadrer une équipe. Il y a des modalités évidemment qui sont variées, à la fois il y a des cours, il y a des cours optionnels, des cours. Il y a des séquences ou des modules, de type module, des blocs un peu obligatoires. Il y a des séquences qui se font de travaux de groupe, ce qu'on appelle les GAP, les groupes d'analyse d'action publique, qui se mènent en parallèle des cours, qui se mènent en général entre 4 et 5 élèves maximum, en mariant au plus possible les origines, les expériences. Et puis ensuite une mission professionnelle qui s'opère en général entre le février et le mois de juin, qui elle en revanche se fait en solo. Ces deux types, les GAP et les missions professionnelles, se font avec un commanditaire, donc avec un sujet qui a été commandé par un opérateur d'action publique. Alors ce qui est nouveau, c'est également l'intégration depuis cette année, hein, depuis la rentrée, l'intégration dans cette formation d'un tronc commun qui est commun en fait à toutes les formations de grand corps, donc qui a été monté dans le courant du premier semestre et qui se met en œuvre progressivement cette année j'y reviendrai en tout cas vers la fin de cette présentation, mais qui donc en tout cas pour ceux qui réussiront le concours l'année prochaine, ben, vous aurez effectivement à suivre ce tronc commun. Alors le concours. Alors d'abord, évidemment, il faut s'inscrire. Première chose. Alors les inscriptions, elles vont s'ouvrir à partir du 22 novembre prochain. Elles se font en principe en préinscription en ligne, hein, sur le site concours du ministère de la Transition écologique, hein, donc concours.développementdurable.gouv.fr. Vous retrouvez sur Google, hein, en tapant des mots-clés comme concours transition écologique, vous allez tomber dessus. Il faut ensuite probablement cliquer sur inscription. La clôture des inscriptions est effective le 7 janvier 2022. Je vous ai donné ici les quelques coordonnées en cas de questions pour des renseignements sur la cellule Info Concours, leur numéro de téléphone et leur courriel. Le dossier, ça comprend un curriculum vitae, une note, 4 pages maximum, hein, qui donc présente vos stages, vos activités, vos travaux, hein, que vous avez réalisés dans le cours de votre formation, auquel vous avez pris part. Et puis, vous pouvez évidemment citer les engagements personnels que vous avez suivis, effectués également dans une activité associative ou extrascolaire, également depuis le bac. Et puis, évidemment, une lettre de motivation, hein, qui explique un petit peu l'intérêt pour vous de candidater, votre intérêt pour les missions du corps, les métiers et les emplois des IPEF. Donc, inscription, un dossier, principalement tout ça se fait en ligne sur le site des concours du ministère de la Transition écologique pour le compte des deux ministères. Le concours en tant que tel comprend à la fois une épreuve d'admissibilité auquel vous ne participez très indirectement, vous participez indirectement au travers de votre dossier d'inscription. Donc il y a un jury qui comprend de mémoire, je pense, 8 personnes, 4 personnes côté ministère de la Transition écologique, 4 personnes côté ministère de l'Agriculture, qui vont examiner votre dossier en gros dans le mois après la clôture des inscriptions, donc typiquement vers le 7 février, j'ai mis ici première semaine de février, vous devriez avoir une information si vous êtes admissible. L'admissibilité, elle va permettre effectivement de passer les épreuves, une épreuve écrite, il est revenu ici numéro 1, à coefficient 2, et qui consiste à rédiger une note d'analyse et de commentaire sur la base d'un dossier qui est remis en séance. La durée de cette épreuve est de 2 heures. Il est noté sur le site des concours qu'elle est prévue le 10 mars. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de cette épreuve? Alors d'abord, c'est qu'avant 2016, elle durait 4 heures, donc elle était un peu racouillée, qu'elle était divisée par deux en termes de temps. Mais dans son esprit, elle reste la même. C'est-à-dire que c'est une épreuve dans laquelle on va vous demander de rédiger une note, une note d'analyse et de synthèse, également de commentaires, comme c'est dit, en 2 heures, sur la base d'un dossier. C'est un dossier qui comprend en général une bonne quarantaine de pages, qui comprend des différents types de documents, des documents officiels, des documents, ce qu'on pourrait appeler de la littérature grise, des rapports de l'administration, des coupures de presse, donc différents types de documents qui vont vous informer sur le sujet en question. Le sujet, souvent, c'est que vous êtes un peu mis en situation. Vous êtes souvent, on va vous dire, voilà, vous êtes chargé de mission auprès du préfet ou auprès de je ne sais pas quel directeur régional ou opérateur de l'État. Et le patron, le dirigeant de cet organisme, en quelque sorte, va vous demander de rédiger un peu, de faire le point sur tel ou tel type de problématique. Alors, vous pouvez aller sur le site des concours, vous avez un peu les annales, vous avez les rapports du jury, vous devez avoir les sujets. Et donc, souvent, voilà, en 2020, il y avait un sujet sur l'abandon du projet EuropaCity, qui est un projet d'aménagement dans le nord de Paris, dans le nord de la région parisienne. Il y avait un sujet en 2017, par exemple, sur les reconversions d'une zone agricole polluée par une activité industrielle. Donc voilà. Ça fait un sujet sur des thématiques dont il faut avoir conscience qu'elles sont, comme vous êtes sur un concours qui concerne beaucoup d'écoles qui ont des natures un peu différentes, principalement l'école des ponts, les écoles d'agronomie de province, les écoles vétérinaires, que ça concerne à la fois les deux ministères, Transition écologique et ministère de l'Agriculture, la tendance est quand même de choisir des sujets qui sont un peu à la confluence des deux ministères. Donc les sujets d'aménagement qui vont avoir des répercussions sur les questions d'espace naturel, sur les questions éventuellement agricoles. Donc des sujets qui seraient par exemple, je dirais, que sur des infrastructures de transport, c'est a priori très très rare, très peu probable. Il faut plutôt, encore une fois, des sujets qui sont à la confluence des deux ministères et souvent des sujets qui sont un peu dans l'actualité nationale ou l'actualité régionale. Quel conseil complémentaire? Parce que j'imagine que là, vous pourrez avoir des questions et je serais évidemment ravi d'essayer d'y répondre, mais il n'y a pas de bonne réponse à la question qui vous sera posée. Ça, c'est le premier truc. Il n'y en a pas. Autrement dit, ce qu'on va vous demander, c'est d'établir un raisonnement, un argumentaire. Donc, il va falloir effectivement faire preuve d'une capacité, je dirais, d'analyse rapide des documents, les 45-50 pages de dossiers qu'on va vous donner. Vous n'avez que 2 heures. Vous devez rédiger au maximum sur 4 pages. Je crois que c'est même, il est indiqué 800 mots. Donc il faut quand même limiter, il ne faut pas en faire trop peu, ni trop. Et donc il y a la qualité de la rédaction qui va être importante. Autrement dit, il faut soigner à la fois le fond et la forme. Qualité rédactionnelle, qualité de orthographique aussi, et de syntaxe, et puis d'ordonnancement des idées. Pour qu'on puisse effectivement apercevoir un plan, apercevoir un raisonnement. Évidemment, il faut éviter tout argument d'autorité. Autrement dit, les arguments que vous allez asséner, il faut les justifier. On n'est pas dans un exercice, je dirais, politique dans lequel on peut asséner des arguments d'autorité sans avoir les justifiés, en prenant parti. Ici, il ne s'agit pas ici de prendre parti. Il s'agit effectivement d'essayer d'exposer une problématique avec des justifications. Donc le raisonnement est important. Et encore une fois, il n'y a pas forcément de bonne réponse. Et le jury qui a concocté le sujet n'a pas non plus, effectivement, nécessairement, je dirais, la bonne réponse. Alors, en principe, ces choses n'ont pas changé. Les corrections se font à deux. Donc, il y a une double correction. Alors effectivement, pour se préparer, évidemment, il faut consulter. Il y a des annales, donc il y a des sujets, et puis je pense qu'il faut, si on est vraiment intéressé pour passer le concours, il ne faut pas traîner, moins que ce soit déjà fait, que vous ayez cette habitude de lire régulièrement un journal national, en tout cas les pages qui peuvent concerner des sujets communs, transition écologique, agriculture. Et puis d'aller faire des tours réguliers sur les sites internet des deux ministères, pour évidemment mieux les connaître dans leurs activités, dans leurs champs de compétences. Et puis peut-être d'aller faire quelques tours sur des organismes comme la Cour des comptes, qui produisent des rapports. Alors, je ne vais pas vous demander de lire les rapports de la Cour des comptes, mais souvent il y a un abstract, un résumé, donc qui permet en tout cas de... peut-être, de se faire une idée. Donc s'il y a des rapports récents qui tournent autour des thématiques du ministère de la Transition écologique, ministère de l'Agriculture, ça peut-être valoir le coup, à la fois pour se préparer pour l'écrit, mais aussi peut-être aussi pour se préparer pour l'oral. Alors l'épreuve numéro 2, c'est un oral. Coefficient 4, là vous avez un entretien avec le jury, il va durer 40 minutes. Il est également effectué sur la base du dossier d'inscription. Ils n'ont pas connaissance de vos résultats d'écrit. Le déroulé, c'est qu'effectivement, vous avez une sorte d'exposé de départ sur à peu près une dizaine de minutes, et après, vous aurez 30 minutes d'échange avec les membres du jury. Dans ces 10 minutes, effectivement, elles sont à préparer soigneusement. Dans le dossier, effectivement, vous allez sans doute effectivement mettre l'accent sur certaines choses. Il ne s'agit pas forcément de répéter tout ce qu'il y a dans le dossier. Donc il faut certainement être capable d'identifier ce qui sont les points saillants pour vous, et également de leur expliquer pourquoi vous êtes là devant eux ce jour-là. Pendant les 30 minutes d'échange, ils vont effectivement chercher à vous pousser dans vos retranchements. Il est néanmoins rappelé au jury qui, en principe, ça se continue à se faire comme ça, parce que j'ai participé à ce jury il y a quelques années, ils suivent une formation préalable, ils ont une piqueur de rappel. Au sujet, on leur rappelle effectivement en tout cas qu'un des points importants, c'est la bienveillance vis-à-vis des candidats. Donc leur objectif n'est pas de vous couler, mais en même temps, pendant ces 30 minutes, ils ont un temps relativement limité pour essayer d'aller beaucoup plus loin dans ce que vous êtes, au-delà du dossier écrit qu'ils ont d'ores et déjà d'une certaine manière lues, échangées lors de l'admissibilité. Au vu de ce dossier, ils vous ont retenu. Ils se sont dit, voilà, c'est un dossier intéressant, et donc on veut voir ce candidat à l'oral. Donc ils vont effectivement chercher aussi à aller plus loin, plus en profondeur, dans ce que vous êtes, en essayant d'avoir effectivement une vision la plus complète possible, au maximum, effectivement, dans un temps qui est quand même très limité. Ça peut paraître long, mais en fait, c'est quand même assez court. Sachant que leur décision n'est pas neutre. De leur décision résulte, en quelque sorte, une embauche au sein de la fonction publique de l'État pour une durée qui est jusqu'à votre retraite, potentiellement. Donc, ils ont quand même, ayez conscience qu'ils ont une tâche importante. C'est la raison pour laquelle ils sont pas tout seuls, hein, ils sont 8, pour essayer effectivement d'apprécier, au vu de tous les candidats qu'ils vont voir, ceux qui vont retenir, in fine. L'oral est un peu aussi, j'ai tendance à dire ça, une épreuve de beauté, c'est-à-dire que vous êtes, là aussi, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de bonne réponse. Tout est relatif. Et vous êtes comparé. Pour un jury qui va vous voir, qui va voir les autres, en fait, la question c'est, est-ce que effectivement je sens plus ce candidat qu'un autre? Comment je vais finalement les interclasser? Et comme il y a un nombre de places limitées, ben, de fait, il y en a qui effectivement seront pris, d'autres ne le seront pas. Alors, je ne sais pas si est-ce qu'il y a des questions sur le concours. Est-ce que tu peux juste parler plus fort, puis moi il faut que je. On m'a donné comme consigne de répéter la question pour que ça puisse être enregistré.
La question est la suivante, c'est pas sur le concours, c'est quand vous êtes rattaché à une entreprise, est-ce que vous avez un rôle qui est plus lié à l'entreprise? Enfin, en fait, c'est quoi votre rôle?
Alors, si j'ai bien compris, c'est quel serait le lien entre l'État et les entreprises, c'est ça?
Quand quelqu'un du ministère des Comptes,
ouais.
Rattaché par exemple à l'EDF,
ouais. Alors, si quelqu'un du corps des IPEF est rattaché à EDF, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, vous êtes rattaché, on va dire, à un employeur, vous avez un employeur. Si vous êtes rentré dans le corps des IPEF, vous avez été recruté, il y a plusieurs positions possibles. Il y a ce qu'on appelle la position normale, c'est la position d'activité. Donc, vous êtes en activité au sein de ce ministère, dans un de ses services, que ce soit Paris, dans ce qu'on appelle les directions d'administration centrale, je l'évoquais, ou dans les services dits déconcentrés, qui sont les établissements en région, en département, par exemple. C'est la position d'activité, c'est la position normale. Vous êtes payé, rémunéré par le ministère. Évidemment, vous êtes à son service, d'une certaine manière. Vous intégrez un système hiérarchique, mais pas en bas d'échelle, hein, plutôt proche du haut. Alors après, ça souvent c'est le premier poste, les ministères, et c'est assez normal quand même, ils ont organisé ce concours, ils investissent sur vous, ils ont des postes à pourvoir, donc ils ont besoin de vous. Donc ils ont besoin à ce que dans ces premiers postes, de la manière, eux, se servent les premiers. Ils acceptent néanmoins, je l'ai dit, à ce que certains ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts prennent leur premier poste dans d'autres ministères, voire même dans d'autres opérateurs, voire même en collectivité territoriale. D'accord? Alors, vous pouvez, et je vais y arriver, ensuite aller à EDF. Alors, pour aller à EDF, on ne va pas le faire en premier poste. Peut-être plutôt au deuxième poste. Le ministère va vous dire, écoutez, tu as trouvé un... Est-ce que la question, c'est d'avoir trouvé un poste. Parce que trouver le poste, aussi, le premier, il est très guidé, parce qu'il faut vous mettre un peu le pied à l'étrier. Mais les postes suivants, c'est vous qui allez les trouver. D'accord? Éventuellement avec l'aide du ministère. Mais donc si, par exemple, vous avez envie d'aller à EDF, et que vous matchez avec EDF, après la question est de savoir dans quelle position vous allez vous situer. Vous ne serez certainement pas en position d'activité, en position normale. Vous serez donc dans une position intermédiaire, qui est une position dite souvent de détachement. On va vous détacher, le ministère va vous détacher à EDF pour une durée en général limitée. 3 ans renouvelables éventuellement. Dans cette position de détachement, vous allez travailler pour EDF. Votre employeur sera EDF. C'est EDF qui va vous payer. D'accord ? Mais effectivement, à la fin de ce détachement, qui peut être vu comme une sorte de contrat à durée déterminée, vous êtes amené soit à renouveler ce détachement, si EDF a envie de continuer la collaboration avec vous, soit vous retournez au ministère. Et pendant ce temps-là, vous ne retournez pas, je dirais, sans avoir perdu ou stagné dans ce qu'on appelle l'ancienneté. Vous avez continué, pendant votre durée de fonction à EDF, vous avez continué en fait à activer votre compteur d'ancienneté. Ce qui n'est pas neutre. Ça vous évite de revenir au stade où vous en étiez quand vous êtes parti du ministère. D'accord ? Et ça, on le fait parce que vous êtes dans des domaines qui restent les domaines, je dirais, de prédilection du corps. Les questions d'énergie, etc., ça peut se comprendre. Et puis, évidemment, qu'on a un opérateur qui est un opérateur à caractère public, quand même. Si, en revanche, est dans une entreprise privée, c'est aussi une question. Vous pouvez, à un moment donné, matcher avec Vinci. À ce moment-là, il va falloir souvent se mettre ce qu'on appelle en disponibilité. Donc là, évidemment, votre employeur, ce sera Vinci, ce ne sera plus le ministère. C'est Vinci qui va vous payer, vous allez travailler pour Vinci. D'accord ? Mais en revanche, vous allez perdre vous n'avancerez plus d'une certaine manière. Le compteur d'ancienneté, lui, sera stabilisé. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ah ben, soit on travaille pour l'État, soit on travaille pour l'entreprise. En général, on travaille pour un employeur.
On n'est pas détaché par l'État de l'entreprise, par une action stratégique, par l'État, par l'émission,
mais
d'un point de vue
légal. C'est pas ça, c'est plus pour travailler avec l'entreprise. Oui, je peux. Oui. Il n'y a pas de. Vous ne pouvez pas à la fois travailler pour le ministère de la Transition et être employé chez EDF et ne pas faire le jeu d'EDF. Après, c'est un autre travail. Que EDF, effectivement, respecte, je dirais, les consignes de l'État en tant qu'opérateur ou établissement société nationale. Est-ce qu'il y a des questions sur le concours ? Alors. Alors, j'y reviendrai après. En 2022, non. Donc, c'est pour ça qu'en 2022, ce que je viens de dire là reste valable. Oui ?
Le concours, on doit le passer par le mieux, c'est le passer à quel moment ?
Alors le concours, vous devez le passer lorsque vous êtes en dernière année de formation. Donc qu'on soit en capacité de justifier que 2021-2022 est votre dernière année de formation à l'école des ponts. Ben, comme dans un double diplôme, ce sont des doubles diplômes, ça c'est lié. Souvent, effectivement, il peut y avoir un élément de retard, de prolongement. Et à ce moment-là, effectivement, la troisième année peut durer un peu plus longtemps. Et à ce moment-là, effectivement, si vous avez que démarré votre troisième année là en mois de septembre, et si vous avez une prolongation de scolarité qui embarque, je dirais, le premier semestre de l'année 2022-2023, on va considérer que c'est 2022-2023 qui est votre dernière année. Oui ?
Est-ce que dans le dossier d'inscription, le jury favorise les gens qui ont fait un stage dans le public ?
Alors, est-ce que le jury favorise des candidats qui ont fait des stages dans le public ? Oui et non. Je ne suis pas dans le jury, donc je ne peux pas vous le dire. Ça m'est difficile. Je pense que, d'une certaine manière, le jury, lui, ne va pas directement s'attacher à cette question-là. C'est-à-dire qu'il est, il ne part pas avec des idées préconçues dans lesquelles il y aurait « Ah, il a fait un, il n'a pas fait de stage dans le public, donc terminé. » C'est pas ça. C'est, on va regarder un dossier global. On va regarder la cohérence par rapport à un projet, évidemment de formation. Parce qu'évidemment, l'analyse sur le dossier, elle est essentiellement sur ce que vous avez fait, grosso modo, depuis le bac. Voilà. Alors évidemment, à la fois dans vos choix d'approfondissement, vos stages, les sujets sur lesquels vous avez travaillé, et puis effectivement aussi, d'autres aspects qui sont effectivement permis d'être évoqués, de vos activités extrascolaires, ou effectuées en lien avec la scolarité. Oui.
Est-ce qu'il est possible pour nous de candidater dans d'autres encore?
Alors, est-ce qu'il est possible pour vous, élèves de l'École des Ponts, de candidater pour d'autres? Alors, il faut regarder ça dans chaque statut particulier de corps, si effectivement il y a des voies d'accès qui sont ouvertes. Alors, à l'École des Ponts, ou dit d'une façon différente, à des écoles équivalentes. En fait, le concours ici, le concours dont on parle, autres grandes écoles scientifiques, cible l'École des Ponts, les écoles d'agronomie de province et les écoles vétérinaires, mais en fait, ouvre à des écoles qui délivrent des diplômes équivalents. Donc, d'une certaine manière, vous avez pu avoir effectivement des candidats de l'école centrale, des candidats des mines de Paris, des candidats de super-héros, dont certains effectivement ont réussi d'ailleurs. Alors après, il faut regarder pour le corps de l'armement. De mémoire, je crois que c'est possible. Le corps des mines, c'est pas sûr. Point à vérifier, mais je crois que c'est pas sûr. Pas sûr du tout. Voilà. Autre question? Il y avait une question là. Oui? Alors, est-ce que le jury tient compte des, on va dire, des différents départements? On pourrait le dire comme ça. Je pense que ma réponse va un peu rejoindre la réponse à la question sur est-ce que j'ai fait des stages dans le public. Là aussi, il n'y a pas d'idée préconçue sur est-ce qu'il y a un département, est-ce qu'il y a une sorte de stratégie, est-ce qu'il y a un département qui est plus intéressant qu'un autre pour essayer d'être admissible, voire réussir le concours. Non, on ne peut pas dire ça. Alors, bien entendu, on peut comprendre en creux que, évidemment, si on est dans le département, mettons VET, peut paraître comme étant effectivement assez globalisant sur les problématiques liées à la ville, à l'ingénierie des transports, etc. Peut être bien conformé pour ça. Mais, encore une fois, ça va dépendre de... C'est un sujet global, en fait. Donc, voilà, on ne peut pas rejeter parce que vous auriez choisi tel département que le sujet est plié. Non. Oui ? Alors, une personne en échange, est-ce qu'une personne en échange à l'École des Ponts en troisième année, mais qui a fait sa scolarité dans une autre école, peut-elle candidater ? Alors, la réponse... elle est en théorie oui. En théorie oui, mais pas au titre de l'École des Ponts. Elle se fera au titre de votre école de départ. Parce que vous allez obtenir un diplôme de l'école, d'une autre école, en fait. Je prends ce cas-là. Donc, c'est au titre de cette école-là. Et c'est probablement cette école-là qui doit, je pense, dans le cadre de votre dossier, remettre un certificat attestant que vous êtes bien effectivement en dernière année de formation au diplôme machin truc. Non française, dès lors qu'effectivement elle peut être considérée comme rendue équivalent au titre effectivement, on dirait PAC plus 5, je pense que ça marche. En tout cas, ça peut se tenter. Après, c'est au bureau des concours d'apprécier effectivement si ils vont considérer effectivement que c'est équivalent. Mais ce ne sera pas effectivement au titre de l'École des Ponts, si vous voulez. Ce sera plutôt au titre de votre, encore une fois, de l'établissement qui vous confère le diplôme en question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On pourrait en avoir d'autres, hein, mais alors je vais continuer. Peut-être ici vous montrer quelques chiffres sur ceux qui ont effectivement candidaté, qui étaient présents. Et j'ai mis entre parenthèses ceux qui venaient de l'école des ponts. Il y avait un gros contingent en 2020 qui s'est un peu largement réduit en 2021. Enfin, ça n'a pas totalement nuit aux résultats, puisque 5 sur 6 ont été admissibles et 2 ont été pris. Voilà, donc ça vous donne un peu un ordre d'idée. Il faut compter à peu près voilà, une grosse quarantaine hein, de candidats. Et on est sur 6 places. Hein, probablement qu'on sera là aussi en 2022 sur 6 places. Alors peut-être vous parler rapidement, ce sera en principe ma dernière diapositive, de la réforme de la haute fonction publique et peut-être de ses implications. Alors, en 2021, il y a une ordonnance qui a été prise par le gouvernement qui a transformé l'ENA en Institut national du service public. Donc ça, c'est quelque chose qui est actuellement une réforme en cours. Et cette INSP, une sorte de nouvelle ENA, doit prendre corps, je dirais, au 1er janvier 2022. Dans les faits, de manière concrète, c'est un changement de nom. Cette nouvelle ENA reste à Strasbourg a priori, c'est toujours les mêmes personnels qui vont s'occuper de ses élèves, etc. Premier élément. Deuxième élément, il y a une réforme un deuxième volet de la réforme qui concerne les corps qui recrutaient sur l'ENA. Donc plutôt on va appeler ça la filière administrative. Avec un regroupement de l'ensemble de ces corps sur un corps dit des administrateurs de l'État. C'est aujourd'hui le corps des administrateurs civils qui va constituer l'ossature de regroupement des autres corps. Et ça aussi, ça va prendre naissance, on va dire, au 1er janvier 2022. Les autres corps en question seront mis, ce qu'on appelle dit, en extinction, c'est-à-dire qu'ils ne seront plus alimentés. Et ceux qui sont actuellement membres de ces corps auront probablement un droit d'option, soit à y rester, soit à intégrer le corps des administrateurs de l'État. Autre volet, je l'avais évoqué, c'est la mise en place d'un tronc commun de formation initiale. Ce tronc commun comprend 5 modules, des modules en général qui durent 2 jours maximum. Donc ce sont des modules au total d'une vingtaine d'heures. Deux jours et demi, une vingtaine d'heures, voilà, et qui concerne les thèmes suivants. Valeur de la République et principe du service public, transition écologique, transition numérique, inégalité et pauvreté, et puis toutes les problématiques de rapport à la science. Ce tronc commun, il a été conçu au premier semestre de cette année, et donc, comme je le disais, il va être mis en œuvre, dispensé, dans les différentes écoles de services publics concernées, je vais y revenir là aussi, à partir de cette année académique 2021-2022. Et en particulier pour les IPEF qui ont été recrutés cette année, ils ont pu effectivement d'ores et déjà suivre le module sur les valeurs de la République et le module transition écologique, module que nous avons conçu, en tout cas côté École des Ponts, en partenariat avec Agro, Paritech. Ils suivront les 3 autres modules, probablement en janvier prochain. Alors, au-delà de ces 5 modules, il y a également un exercice de projet collectif qui est également prévu, et dont la configuration est en cours, je dirais, de précision à ce stade. Alors, qui sont les fonctionnaires concernés? Évidemment, tous ceux qui sont formés à l'ENA, auront ce tronc commun, seront concernés par ce tronc commun. Tous les corps techniques, quels sont-ils? Ben, c'est le corps des ponts, des eaux et des forêts, le corps des mines, le corps de l'armement, les administrateurs de l'INSEE, les inspecteurs de la santé publique vétérinaire, que j'avais juste évoqué comme deuxième corps important pour le ministère de l'Agriculture. Vous avez les administrateurs des affaires maritimes. Vous avez les magistrats, donc l'École nationale de la magistrature, qui est d'ailleurs représente un contingent très important, parce que grosso modo, on est sur un des contingents d'environ à peu près 700 à 800 personnes concernées par an, dont 300 magistrats. Vous avez les fonctionnaires territoriaux, ce qu'on appelle les administrateurs territoriaux. Vous avez ceux qui forment les directeurs d'hôpitaux, les futurs directeurs d'hôpitaux, côté hospitalière. Vous avez les commissaires de police. Vous avez également les futurs directeurs de prison. Est-ce que j'en oublie ? Peut-être. Les futurs dirigeants des organismes de sécurité sociale. Donc voilà, donc tout un panel un peu hétéroclite qui se verra donc dispensé à compter de cette année, à compter des recrutements. Et, certains ont des formations qui démarrent en septembre, c'était notre cas. D'autres ont des formations qui démarrent en janvier. Donc voilà, tout ceci va se mettre en place de manière pragmatique. Ce sont un tronc commun qui est suivi d'ailleurs en distanciel, pour l'essentiel. Et on le comprend assez facilement compte tenu de ce côté un peu hétéroclite des 14-15 écoles concernées par cette affaire. Alors, autre volet plus récent, je passe peut-être rapidement sur le discours du Premier ministre lors d'une convention managériale du 8 juillet 2021, où ont été évoquées effectivement des questions de recrutement, de formation initiale, etc., de modalités d'affectation. Ce qui va intéresser plus, ce qui est dans l'actualité, qu'on pourrait qualifier de brûlante, pour ce qui nous concerne, c'est une mission qui a été effectivement commanditée par le Premier ministre sur les corps techniques. Comme je le disais, le regroupement dans un unique corps des administrateurs de l'État ne concernait que la filière administrative. Donc il y a une mission qui est maintenant lancée sur la question des corps techniques, avec effectivement trois options. Pour les membres de la mission, autour de, effectivement, est-ce que on doit aller vers un corps unique d'ingénieurs ? Est-ce qu'on a un maintien des corps techniques tels qu'ils sont aujourd'hui, voire une solution encore plus radicale qui est effectivement de regrouper tout le monde dans le corps des administrateurs de l'État ? Donc ça, on en attend des conclusions pour la fin de l'année, fin d'année, début d'année prochaine, on va dire. Pour vous, potentiel candidat pour le corps des IPEF, il n'y aura évidemment pas de changement par rapport à ce que je disais, hein, c'est-à-dire le concours 2022 s'organisera dans les textes actuels. Ça, c'est parfaitement clair. Ensuite, selon les solutions qui seront retenues, elles nécessiteront là aussi des textes, des prises de textes officiels, et donc elle n'aura pas d'impact également sur la formation. C'est quasiment sûr et certain, puisque votre formation aurait lieu en 2022-2023. Et votre intégration dans le corps, dans ce contexte-là, aurait bel et bien lieu, et s'il y avait effectivement cette fusion générale, on se retrouvait dans la même situation que l'ensemble de la filière administrative avec un droit d'option. Et donc, certains auront effectivement une option d'intégrer le corps des administrateurs de l'État ou de rester, si ça leur chante, on va dire, dans les corps mis en extinction. Donc voilà ce stade, ce que l'on peut dire. Il est très probable que pour le futur, même si on est dans une solution que je qualifierais ici d'extrême, de fusion générale, les questions de compétences et donc de formation, d'origine, de recrutement, resteront. Et donc, on serait amené à avoir en fait un espace de corps plus large, plus important, mais avec une complexité plus importante en termes de recrutement et de formation. Dans le passé, jusqu'à présent, on va dire que les corps, on les organisait autour, évidemment, d'un système de recrutement, souvent relativement simple, et d'une formation. Une formation implique un corps. Mais, bon, donc, on a d'autres corps dans lesquels, effectivement, il y a des voies de recrutement différentes, mais souvent, il y a une formation qui est quand même un peu unique. Donc, ce serait une innovation d'aller sur des corps avec des formations qui soient diverses. Ça impliquerait probablement que le tronc commun, peut-être, serait plus important. Bon. Voilà ce qu'on peut dire à ce stade. Rien n'est sûr. Mais en tout cas, je pense que ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, pour le court terme et pour le concours de 2022, rien ne sera changé. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors oui. Potentiellement, en théorie, si je puis dire, si le rapport concluait, si le gouvernement retenait une option de type fusion générale, on ne peut pas exclure à 100% que les concours 2023 soient un peu chamboulés. Bon, en même temps, ce sont des chantiers qui sont assez lourds à conduire, et par conséquent, ça peut prendre du temps. Donc, autant je suis sûr et certain sur 2022, autant je le suis forcément un petit peu moins au stade d'avancement où on en est pour 2023. Bon, sachant pas plus, je dirais que c'est du 50-50, quoi. Il y avait une autre question ? C'était la même ? Donc voilà, il faut rester attentif, mais le pire n'est jamais certain. À vrai dire, je ne crois pas beaucoup, mais je peux me tromper à une fusion générale. Ce qui peut être un peu plus probable, c'est une fusion dans un unique corps d'ingénieurs. Mais encore une fois, un corps d'ingénieurs qui va relever de plusieurs ministères nécessite des compétences, donc nécessite des formations. Donc il y aura forcément un vrai débat. Et il y aura de toute façon des concours qui vont rester par rapport à différentes origines. Donc si vous voulez, lorsque on a connu la fusion entre les Ponts et Chaussées, le Général Eaux et Forêts, il y avait, par le biais du greffe, déjà des recrutements côté agro qui se faisaient, côté des écoles d'agronomie, et ils ont été maintenus. J'aurais tendance à dire que dans un corps fusionné d'ingénieurs, on va dire, il y aura encore des voies de recrutement, et je pense que même dans un corps fusionné, le grand tout en quelque sorte, il y aurait besoin effectivement d'avoir des recrutements qui soient larges. Ce serait étonnant que le gouvernement, par les temps qui courent, limite les origines de recrutement. Donc c'est pour ça que des concours permettant à des élèves des ponts d'entrer dans ce corps ou un autre corps, je dirais, équivalent, qui répondra aussi aux fonctions du corps des IPEF, resteront. Voilà, c'est pour ça qu'il faut rester un peu mesuré. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? Une bonne question. Elle ne peut en réalité se passer, on va dire, presque qu'une fois. Pourquoi ? Parce que, une fois, la condition principale, c'est que vous devez être en dernière année de formation. Alors, vous pouvez être plusieurs fois en dernière année. Hein. Mais bon, à un moment donné, vous pouvez être diplômé. Question ?
Oui,
il y a déjà eu ce cas-là. Il y en a déjà eu. Ils ont passé ces concours, on va dire, et certains l'ont réussi. Donc, en pratique, c'est tout à fait possible. Et je ne crois pas que ce soit... Encore une fois, le jury ne voit pas ça comme nécessairement un handicap. Vous avez... À la fois, ce droit existe. Donc, c'est vrai pour que quelqu'un qui... Par exemple, un X qui effectivement fait sa formation complémentaire intégrée à l'école des ponts ou l'a fait à l'agro, pas dans un cas... Il peut le passer effectivement dans le cadre de ce concours, autres grandes écoles scientifiques. Dans notre cas, il peut le faire dans le cadre du concours spécifique AgroParisTech. Ouais. Je crois pas. Je crois qu'il y a eu un cas récent d'ailleurs d'une élève de l'X recrutée sur le concours agro. Encore une fois, c'est le dossier global. Je ne sais pas dire plus, en tout cas, dans un contexte d'admissibilité, à vrai dire. La cohérence de votre dossier, la date de motivation, voilà. C'est un tout. Oui? Est-ce que tu peux, est-ce que vous parlez plus fort? J'ai entendu qu'effectivement, est-ce qu'on peut faire une thèse en premier poste, mais pas forcément la suite. Alors, faire une thèse en premier poste, oui. Il y en a aujourd'hui, en 2021, il y en a 11, alors, mais qui d'ailleurs ne sont pas tous des polytechniciens, qui démarrent une thèse. Donc la réponse, la première réponse, elle est positive. Hein. On peut faire une thèse, c'est un premier poste, c'est perçu comme ça, ça dure 3 ans. D'ailleurs, un poste en général dure 3 ans, donc ça. Il se trouve que c'est un poste dans lequel, effectivement, au bout du chemin, il y a un diplôme. Donc c'est à la fois une formation, mais en même temps, c'est un vrai travail. Dans une vraie équipe, une vraie organisation, une organisation de recherche, enfin, une organisation. Donc c'est une vraie expérience, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est perçu comme un premier poste par le corps. Alors, est-ce que c'est, ça serait perçu comme un handicap? La réponse est, à mon avis, non. D'une part, parce que les ministères ne veulent pas faire croire que les thèses sont réservées à une seule type de population, notamment aux polytechniciens, considérant qu'ils ont un peu plus de temps pour s'y préparer. Donc ils sont justement assez attentifs, et donc pas du juste opposés à ce que ceux qui passent par des concours type agro, type autres grandes écoles ou écoles normales supérieures, se voient à ce moment-là refuser le fait de faire une thèse. Alors encore une fois, on est dans, c'est mon projet, c'est la globalité du dossier, c'est la cohérence qui est donnée, c'est éventuellement les sujets sur lesquels on veut travailler. Alors évidemment, vous entrez, vous ferez un an de formation, et ensuite vous démarrez en thèse. Donc effectivement, il faut, pendant cette année de formation, il faut se préparer à cette thèse. Donc c'est un travail où il faut être évidemment assez volontaire pour itérer avec les écoles, avec le ministère, pour faire valoir que le sujet sur lequel il me tient à cœur est un sujet d'intérêt pour le corps, d'intérêt pour le ministère, etc., etc. Il va falloir à un moment donné, probablement un peu plus argumenter, pas forcément au niveau du jury, hein, mais après coup, si vous êtes retenu, sur le fait que voilà, c'est le ministère ou l'un des deux ministères a intérêt à me payer en quelque sorte, en gros, hein, à parier sur moi parce que ce sujet en vaut la peine. Et ce sujet en vaut la peine pour vous, pas uniquement pour moi, pour vous, pour l'État, et pour les ministères que vous reprenez, émanation sectorielle de l'État. Donc voilà, donc c'est pas, encore une fois, c'est pas un handicap, mais il faut effectivement, là aussi, c'est une question, c'est aussi de bien présenter les choses. Oui. Alors, tu peux parfaitement passer plusieurs concours, c'est tout à fait ton droit, il n'y a absolument aucun sujet. Alors, sachant que l'INSP ou l'EXENA, eux, ils vont avoir des systèmes de formation dans lesquels les démarrages sont au 1er janvier. Je ne sais pas exactement quand sont les concours, mais vous pouvez parfaitement concourir, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Oui ?
Comme vous disiez que le concours ne peut passer qu'en dernière année de formation, est-ce qu'une thèse, ça compte comme une formation dans ce cas ? Parce que si, par exemple, on décide de continuer une année dernière sur une thèse, et qu'après la thèse, on se rend compte que ça pourrait...
La dernière année de formation, c'est une année de formation d'ingénieur ou équivalente. Donc on est bac plus 5 en fait. Je pense que je réponds comme ça. Alors après, pour ceux qui font des thèses, il y a des possibilités effectivement de recrutement. Après coup, il y a un concours sur titres et travaux qui cible plutôt des gens qui sont docteurs et qui ne cible pas d'âge particulier. Il faut juste évidemment être capable de dire que je vais exciper un titre de docteur. Oui ? Ben oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, on va lever cet amphi en quelque sorte. Je reste à votre disposition, hein, mon bureau en B213, si vous avez d'éventuelles autres questions. On pourrait effectivement vous mettre à votre disposition la présentation. Effectivement, n'hésitez pas en tout cas à venir me voir si besoin. Merci à vous.